Chers frères et sœurs, chers amis, sauf imprévu quasiment miraculeux, le confinement que nous venons d'entamer va probablement durer plusieurs semaines et même peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. Ce n'est pas du pessimisme de ma part, mais du réalisme. Un homme prévenu en vaut deux, et cela permet de mieux se préparer à affronter les situations que d'être dans l'illusion et de se retrouver perdu et décontenancé. Pour ce qui nous concerne, nous avons cette ressource inégalable et inépuisable qu'est la prière. Et le rendez-vous sur notre WhatsApp est pour le partage des sujets de prière, mais aussi l'action de grâce. Ne nous en privons donc pas si nous le pouvons. Dieu voulant, en introduction de cette prédication de prière et de celle que nous aurons dans les prochains temps, nous pourrons donner quelques exemples tirés de la nature, la création de notre Seigneur, pour illustrer différentes sortes de prières que nous pouvons faire monter à notre Dieu. Et avant d'aborder ces différentes sortes de prières dont la Bible nous parle, prenons un exemple très simple et caractéristique de cette nature qui dépeint merveilleusement ce qu'est la prière en général. La lycose de Narbonne est une araignée noire qui vit dans les lieux incultes et ensoleillés du Midi. Elle se creuse un terrier plus ou moins vertical dans le sol et ne le quitte guère. Pendant la nuit, elle descend dans les profondeurs. Le jour, elle se chauffe au soleil sur la margelle de son puits, attendant une proie. Elle dépose ses œufs dans une poche blanche, sphérique, qu'elle a confectionnée elle-même avec la soie de ses filières. La boule, parfaitement ronde, est bourrée d'œufs, et quand l'araignée circule, elle la porte partout avec elle. Au coucher du soleil, la bête descend au fond de son manoir avec son précieux trésor. Dans le souterrain, les œufs sont à l'abri de la fraîcheur du soir et de la nuit. Le matin, quand le soleil commence à réchauffer la terre, l'araignée remonte prudemment des profondeurs avec son fardeau. Elle ne se contente pas, comme plusieurs espèces communes dans nos jardins, de se placer dans des endroits chauds et abrités, en laissant toujours la boule appendue à ses filières. La lycose de Narbonne apparaît tout d'abord, la tête la première, à la fenêtre de son logis, et après s'être assurée que le soleil est chaud et qu'aucun danger ne se montre à l'horizon, elle se retourne, saisit la boule avec ses pattes postérieures et l'expose en plein soleil. Elle reste là, immobile, tant que le soleil brille avec une persévérance incroyable. Son seul mouvement consiste à faire tourner légèrement la boule, de temps à autre, de façon que toutes les faces de la sphère soient également exposées à la bienfaisante chaleur. Grâce aux habiles précautions de cette tendre mère, le soleil fait le même travail que la fauvette ou l'hirondelle couvant ses œufs. Et bientôt, les petites araignées font leur apparition. Elles se répandent sur tout le corps de leur maman qui continue à les transporter partout avec elles. Quelle image claire et merveilleuse, puisque Dieu est appelé, dans Malachie, chapitre 4, verset 2, « le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons ». Puisque du Seigneur Jésus, il est dit « le soleil levant nous a visités d'en haut », c'est dans Luc, chapitre 1, verset 78. Puisqu'enfin, l'apôtre Paul nous invite à exposer nos besoins à Dieu. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Les petits œufs de l'araignée, contenus dans la poche de soie, puis les bestioles qui en sortent, peuvent très bien représenter les différents sujets de prière que nous avons dans nos cœurs et qu'il nous faut exposer au soleil divin si nous en désirons l'exaucement. Alors l'interprétation littérale parle de nos enfants selon la chair ou de nos enfants spirituels. Et même, pour prolonger jusqu'au bout la comparaison, de ceux-ci avant et après leur naissance. Le devoir et le privilège de tous les parents chrétiens n'est-il pas d'apporter tous les jours à Dieu, par la prière, les enfants que Dieu leur confie, non seulement après leur naissance, mais dès leur conception, et de demander à Dieu qu'il les enrichisse de tous ses dons physiques, intellectuels et spirituels, et qu'il les prépare pour être plus tard des instruments utiles pour annoncer dans le monde la bonne nouvelle du salut. Mais si les œufs sont en premier lieu l'image de nos enfants, ils peuvent aussi représenter d'autres membres de nos familles, des amis, des connaissances, des serviteurs de Dieu, des malades, ou bien un témoignage à rendre, des démarches à faire, des papiers importants à obtenir, des voyages, des projets, des épreuves ou des difficultés quelconques, notre propre caractère, nos défauts, notre travail, tout matériel, nos jardins, nos cultures, etc. En un mot, tout ce qui peut être transformé en prière, apportons-le à Dieu fidèlement, soit seul, soit à deux, soit à plusieurs. Et comme l'araignée tourne systématiquement son paquet d'œufs pour que tous profitent de l'insolation directe, apportons un sujet après l'autre à notre Dieu, avec ordre, précision et persévérance. Et comme l'araignée, pour ne perdre aucun de ses œufs, les enferme soigneusement dans un fin tissu de soie, rassemblons dans nos cœurs tous ces sujets de prière et ne les perdons pas de vue. Si nos mémoires nous jouent des tours, inscrivons-les dans un carnet. Si nous agissons ainsi avec une pleine foi dans les promesses et la puissance de Dieu, il exaucera. Comme dans les œufs de l'araignée, la vie se manifestera, des âmes seront sauvées, des transformations s'opéreront, des portes s'ouvriront pour des départs missionnaires, des chemins s'aplaniront, Dieu sera glorifié et nos cœurs seront dans la joie. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, mais nous pourrions aussi bien voir Luc chapitre 18, verset 1er, ou 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, ou Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. Et par ces versets, ce verset en particulier, l'apôtre Paul nous apprend qu'il y a plusieurs moyens de s'adresser à Dieu. Nous allons pouvoir examiner dans les prochains temps, Dieu voulant, différentes sortes de prières et chercher ensemble dans la nature un exemple pour chacune d'elles. Vous verrez combien la nature et la parole de Dieu se complètent bien. La Bible et la nature se complètent bien. Ce sont deux livres écrits de la même main et qui nous disent l'un et l'autre tout ce que nous avons besoin de savoir pour être sauvés, pour vivre en vrai chrétien et pour porter du fruit. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, trois genres de prières sont mentionnés à la fois. Ce sont les requêtes, les actions de grâce et les supplications. Voilà, nous parlerons, Dieu voulant, de la suite à la prochaine prédication concernant la prière. Mais aujourd'hui, nous voulons ouvrir la parole de Dieu maintenant dans le premier livre des Rois, au chapitre 7 et au verset 13. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, de ta parole qui est encore vivante et efficace et par laquelle tu opères encore ton œuvre. Nous te remercions parce que tu es celui qui la suit, tu es celui qui l'accompagne, tu es celui qui la confirme puissamment, exactement, parfaitement. Et nous te bénissons pour toute l'œuvre que tu accomplis encore ce soir par son moyen, pour la foi que tu fortifies dans nos cœurs et dans nos âmes, pour toutes bonnes choses que tu réalises encore. Amen. Amen. Donc nous lisons dans 1 Roi chapitre 7 au verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lys et avaient 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Voilà, mes amis, de tous les ouvrages exécutés par Hiram, celui-ci fut sans doute le plus remarquable, le plus admiré, comme l'indique d'une part le rang qui lui fut assigné, puisqu'on le trouve en tête des ornements et du mobilier du temple. Et puis, il nous montre aussi, ça nous est révélé aussi par les détails qui nous sont donnés à ce sujet. Ah, pourquoi ces deux colonnes? Eh bien, pour qu'on ne puisse pas manquer de les voir, bien sûr, de quelque côté qu'on se tourne, en sortant ou en entrant du temple. Et puis aussi pour le témoignage à la gloire de Dieu, puisque le désir de Dieu, c'est d'envoyer ses témoins deux à deux. Nous pourrions voir plusieurs choses au sujet de ces colonnes. Tout d'abord, leur lieu. Ensuite, quelque part, l'humanité telle qu'on la trouve représentée dans ces colonnes. La communion également, qu'on trouve représentée là. Le fruit pour Dieu dans ces colonnes. Le point élevé de ces colonnes, la fonction de ces colonnes. Et enfin, leur fermeté. Voilà, cette chose qu'on peut développer entre plusieurs autres, d'ailleurs, comme nous pourrons également le creuser un petit peu, Dieu voulant, un peu plus tard. Tout d'abord, le lieu de ces colonnes, elles sont à l'entrée du temple de Dieu. Et si on voulait y entrer, il fallait considérer leur message, leur témoignage, car on ne pouvait pas manquer de les voir. Ces colonnes, au contraire de beaucoup, ne portaient pas de toiture, puisqu'elles étaient plus élevées, en fait, que le temple. C'était donc plutôt une fonction de souvenir, une fonction de mémorial et une fonction de témoignage que la fonction de ces colonnes. Et il est nécessaire, mes amis, mes frères et sœurs, qu'il y ait des témoins, qu'il y ait des colonnes à l'entrée du temple de Dieu. Qu'il y en ait un témoignage, un véritable témoignage à rendre au Seigneur, un message selon Dieu à apporter et à manifester pour tous ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Nous devons ainsi être des modèles, des ambassadeurs pour Christ, et que la volonté, la doctrine de Dieu puissent être vues en exemple dans nos vies pour d'autres qui auraient le désir de rechercher un tel exemple. La deuxième chose, c'est l'humanité dans ces colonnes, parce que ces colonnes représentent des hommes. De par leur dimension symbolique, qui sont des multiples de 6, nous savons que le chiffre 6 est quelque chose qui a spécialement trait à l'homme dans toute la parole de Dieu, spécialement jusque dans l'Apocalypse, on le voit bien. Nous voyons bien que ces colonnes mesurent 18 coudées de hauteur, ça fait 3 fois 6. Leur circonférence est de 12 coudées, ça veut dire 2 fois 6, c'est ce qu'on voit dans le verset 15. Et puis, je dirais que nous le voyons aussi dans la manière dont elles ont été fabriquées. Il nous est dit au chapitre 7, au verset 46, qu'elles ont été fondues dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux. Ça veut dire qu'il a fallu un moule d'argile, c'est cela qui a été nécessaire, et ça veut dire aussi que ce feu de l'air infondu a été obligé de se couler dans ce moule jusqu'à se consolider après. Et ne sommes-nous pas aussi de ceux dans la fabrication desquels l'argile et le moule ont leur place? Nous savons comment le Seigneur a fabriqué l'homme à partir de la poussière de la terre et que c'est lui qui l'a modelé avant de souffler dans ses narines un souffle de vie. Et puis un autre grand point, un troisième grand point que nous discernons dans ces colonnes, c'est la communion. Alors, vous avez ces deux parties dans ce chapiteau. D'une part, cette partie basse, qui n'est pas très haute, en fait, qui est plutôt renflée. En hébreu, c'est le mot « beten », qui veut dire « le ventre ». Et puis, vous avez une partie haute, de 5 ou 4 coudées, suivant la garniture, qu'on compte la garniture ou pas, ayant la forme d'un lys colossal, probablement épanoui, c'est-à-dire avec l'extrémité des pétales repliée vers l'extérieur. Et la partie basse était remarquablement ornée, on le voit, au verset 17, vous avez un septuple treillis d'airain, en hébreu c'est le mot « sovek », qui veut dire « entrelacement », comme un entrelacement de branches. C'est-à-dire un ouvrage d'airain qui représentait des réseaux de rameaux entrelacés, entrecroisés. Et le nombre 7 désigne sans doute les 7 branches principales partant du faîte et donnant naissance à ces treillis. Et combien cet entrelacement de branches nous parle de la communion fraternelle qui est nécessaire et indispensable dans l'Assemblée. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, cela nous est dit avec beaucoup de force et une image très proche est employée là aussi. Et nous pouvons lire cela. Jean, chapitre 15, verset 1er, le Seigneur dit « Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Voilà. Donc, ceci nous rappelle cette nécessité que les sarments demeurent attachés au cep. C'est-à-dire que nous demeurions véritablement liés, profondément greffés en celui qui est la source de notre vie et que de cette manière, eh bien, sa vie puisse couler en nous. Et puis, nécessité aussi que ces sarments soient liés les uns aux autres et leur entrelacement nous parle de cette communion qu'ils ont les uns avec les autres et c'est ce qui est évidemment nécessaire pour chaque croyant. Amen. Et puis voici que notre quatrième point nous parle aussi de fruits pour Dieu par ces colonnes-là. Je dirais que c'est ce qui découle fort logiquement du passage que nous venons de lire, ainsi que notre texte de départ. Ces nombreuses grenades qui sont là parlent du fruit abondant qui est porté par ceux qui sont véritablement en communion les uns avec les autres en Jésus-Christ. C'est sur cet entrelacement, c'est sur ce treillis que les fruits sont fixés et reposent. Remarquez qu'il s'agit de grenades. On les trouve aussi au bas de la robe du souverain sacrificateur. Plus petite, bien sûr, mais malgré tout, cette même image est employée en alternance avec des clochettes. Une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. On a retrouvé, il y a quelques années, dans les fouilles archéologiques à Jérusalem, une de ces petites clochettes qui était utilisée dans le temple. Et ces clochettes, donc, nous poussent à écouter. Et ce sont ceux qui écoutent la voix du Seigneur, la voix du serviteur de Dieu quand il accomplit son service pour Dieu, qui peuvent aussi porter du fruit pour Dieu et pour le bien de leur prochain. Le fruit de l'esprit, un fruit de travail pour les âmes, le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Si je continue encore, je m'aperçois qu'au point le plus élevé de ces colonnes, il est question d'un lys ouvert. Ces colonnes sont surmontées par une fleur de lys à la corolle largement ouverte. Et ceci est une image de la beauté d'une vie à la gloire de Dieu, avec sa louange ouverte vers le ciel. Le verset 19 peut se traduire « en façon de lys ». En façon de lys. C'est-à-dire que du milieu de cet entrelacement de branches, de cette abondance de fruits, s'élevait enfin l'ornement qui couronnait toute la colonne, le lys gigantesque qui s'épanouissait à son sommet. Que nous dit la parole de Dieu concernant le lys? D'après l'Écriture, il croissait en divers lieux. On en parle beaucoup dans le Cantique des Cantiques. Ainsi, au chapitre 2, au verset 16, il nous est dit que le lys pousse là où broutent brebis et gazelles, là où paissent brebis et gazelles. Ainsi, c'est dit aussi au chapitre 4, au verset 5 du même livre, ainsi qu'au chapitre 6 et au verset 3. Il nous est dit également que le lys peut pousser parmi les épines. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Il est aussi bien cultivé dans les jardins. On voit ça dans le chapitre 6 et au verset 2. Et il prospère également dans les vallées, chapitre 2, verset 1er. Et le Seigneur Jésus lui-même reprend l'image dans Matthieu, chapitre 6, au verset 28, pour nous dire qu'il pousse aussi dans les prairies. Et ceci nous rappelle, ceci signifie qu'une vie à la gloire de Dieu, une vie qui loue Dieu, peut se trouver dans toutes sortes de lieux et de circonstances. Il est toujours possible de louer et de glorifier le Seigneur, que ce soit simple ou non, que ce soit facile ou difficile, avec le secours de notre Dieu, nous pouvons être des lys pour lui. Et ceci est également une image de merveilleuse confiance en Dieu. Parce que je reprends ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 28, que j'ai cité il y a un instant. Et là, il est marqué « Considérez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Combien il est précieux et nécessaire d'avoir cette confiance en Dieu. Avec ce merveilleux vêtement de louange, aujourd'hui encore, pour l'accompagner. Amen. Et voici mon cinquième point maintenant, c'est les fonctions de ces colonnes. Ces colonnes, nous l'avons dit, ne portent pas de poids matériel. Mais elles portent un autre fardeau. Un autre fardeau qui est bien plus important, c'est-à-dire c'est le fardeau spirituel. Le fardeau du témoignage. Le fardeau d'une vie à la gloire de Dieu et de lèvres qui glorifient le Seigneur. Le fardeau des âmes. Il est important d'être de ceux qui portent le fardeau des âmes, de ceux qui le font de manière continue, avec persévérance, qui luttent pour l'œuvre du Seigneur dans les vies. Et ce sont, oui c'est vrai, tout ça sont des choses pour préparer la gloire à venir, et qui ont à cœur d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, la première fonction, c'est de porter le fardeau spirituel pour ces colonnes. Il y a une deuxième fonction, c'est d'être des rappels pour les sacrificateurs qui entraient dans le temple de Dieu concernant les différents points qu'on a cités déjà. C'est-à-dire qu'en premier, il leur faut dépendre de Dieu pour l'exercice de leur piété et de tout leur service pour lui. Il faut que ce service soit fait en lui. Et c'était spécialement important au moment où ils entraient dans le temple. Et puis, le deuxième aspect de ce rappel, c'est que les sacrificateurs peuvent compter sur Dieu pour être fortifiés et affermis. Il affermira d'un côté, c'est le nom de la colonne d'un côté, et de l'autre côté, c'est en lui la force. C'est ça que ça veut dire. Et c'est de cette manière que leur ministère sera pleinement approuvé de lui. Et puis le troisième aspect de ce rappel, c'est qu'ils doivent compter sur le Seigneur pour l'établissement de la maison de Dieu et pour l'accomplissement pleinement béni de toute son œuvre entre leurs mains. Et puis nous en arrivons à la fermeté de ces colonnes, qui est quand même un élément tout à fait impressionnant dans cette description. Par leur dimension massive, par leur poids, ces colonnes, en fait, sont beaucoup plus puissantes que celles qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du temple et qui servaient à maintenir les superstructures du temple. Et puis, bien sûr, c'est le matériau utilisé, l'airain, qui est d'une extrême dureté, d'une extrême solidité. Nous nous souvenons du prophète Ézéchiel, auquel le Seigneur s'adresse et lui dit que son front va être endurci, rendu semblable à de l'airain, pour pouvoir s'opposer aux adversaires, pour pouvoir leur résister, et qu'il va lui-même être rendu semblable à une muraille de fer. Et puis, bien sûr, ces colonnes, leur fermeté est remarquée aussi par les noms qui sont donnés à chacune de ces colonnes. Je le rappelle, Jachin signifie « il a affermi » et « il affermira ». Voilà. Boaz signifie « en lui la force ». Ah, il est important, mes amis, au vu et à l'entente de ces indications précieuses qui nous sont ainsi données, que nous puissions rappeler une douzaine de points concernant ces colonnes, afin que nous puissions apprendre à aussi être de précieuses colonnes dans l'Église de Dieu, dans son œuvre. Alors rappelons déjà que ces colonnes sont plus puissantes que celles de l'intérieur du temple qui portent la construction. Pour nous rappeler donc que le fardeau spirituel, le poids de la gloire de Dieu, est plus important et plus massif devant Dieu que le fardeau matériel. Qui est suffisant pour ces choses, disait l'apôtre Paul. Ensuite, en deuxième, le fait que ces colonnes soient ouvertes vers le haut, en forme d'une immense fleur de lys ouvert, nous parle d'une vie ouverte vers Dieu, d'une conscience qui est orientée vers le ciel, d'une âme qui est attachée aux choses d'en haut, d'un esprit qui adore justement en esprit et en vérité et qui veut tout faire pour la gloire de Dieu. En troisième, le fait que ces colonnes soient d'airain veut dire qu'elles sont solides et qu'elles sont immuables. On ne peut pas les modeler, on ne peut pas les faire changer, on ne peut pas essayer de les sculpter. Depuis qu'elles sont sorties de l'atelier du fondeur, elles ne changent pas et ne changeront pas. Et ainsi, ces vies à la gloire de Dieu, ces colonnes spirituelles, sont elles aussi fondées sur la parole de Dieu, littéralement fondues avec la parole de Dieu. Le monde peut changer, peut être bouleversé, elles ne changeront pas, car elles sont fondées dans les immuables principes divins. Enfin, ensuite, en quatrième, le nom de Jacqueline, qui veut dire « elle a affermi, il affermira », mérite aussi que nous nous y arrêtions. Parce que ça nous parle de la fidélité sans faille du Seigneur pour ceux qui se confient en lui. Quelles que soient les circonstances et les situations, il l'a toujours fait. Il le fera toujours, de manière pleinement efficace et suffisante, pour que ses enfants ne chancellent pas, ne vacillent pas, ne chutent pas, restent debout pour assurer leur témoignage et leur ministère. Et le deuxième nom, celui de Boaz, qui, je rappelle, veut dire « en lui la force », ça nous rappelle le secret de la puissance d'en haut, de la puissance suprême et divine, en fait de la puissance de la résurrection dans le croyant. C'est en lui, oui, c'est dans la communion maintenue avec lui, approfondie avec lui, dans la dépendance continuelle et consciente et reconnue et proclamée. Rappelez-vous dans Jean 15, verset 8, le Seigneur disait, Jean 15, verset 1 et verset 8, pardon, jusqu'au verset 8, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est en lui, c'est vrai. Et souvenons-nous, en sixième, de leur positionnement stratégique à l'entrée du temple pour nous rappeler l'importance et la priorité continuelle de ces choses d'en haut. Jésus s'adressait à Marthe et lui disait « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie demeurait assise aux pieds du Seigneur. » C'est ça la priorité. Et puis ensuite, l'ouverture de ces colonnes vers le haut, en forme de fleur de lys, nous parle aussi d'une offrande à Dieu, d'un service qui est rendu comme un culte à Dieu, d'un encens qui est d'une bonne odeur devant Dieu. Nous sommes exhortés à faire tout pour la gloire de Dieu. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Nous sommes invités à faire le sacrifice de nos membres. Tout cela est résumé dans Romains 12, verset 1er, où l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et puis en huitième, cette ouverture de la colonne vers le haut nous parle aussi de recevoir de Dieu, de recevoir d'en haut. En fait, cette fleur ouverte, c'est aussi un réceptacle. Il est important que nous soyons ouverts en direction du ciel, que nous nous attendions à Dieu, que nous croyons que le Seigneur veut bénir et exaucer tous ceux qui se confient en lui. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, croyons-le frères et sœurs, descendent d'en haut du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Demandez et l'on vous donnera. Croyez que le Seigneur veut donner. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Croyons que le Seigneur veut nous les donner en plus. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Soyons de ceux qui demandent et croyons que le Seigneur le donne. Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander au Seigneur une chose quelconque, celle-ci leur sera accordée. Béni soit Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. Soyons et restons surtout ainsi ouverts vers le ciel pour être le réceptacle des bénédictions et des grâces de notre Dieu. Voyez ensuite, rappelons cela, ces colonnes sont au nombre de deux, et ceci attire notre attention sur leur fonction de témoin. Elles sont là pour témoigner de la gloire de Dieu, du miracle de Dieu, de la façon dont Dieu répond aux prières. et elles se soutiennent l'une l'autre dans leur témoignage pour cela. Elles nous rappellent également de cette façon l'importance de l'annonce de l'Évangile et de la manière dont Jésus a envoyé ses disciples deux à deux pour en témoigner, pour annoncer cet Évangile. Nous invitons nous aussi à témoigner et à porter ainsi la bonne nouvelle en équipe pour faire son œuvre. Et puis de ce point de vue, ces deux colonnes nous renvoient aussi aux deux témoins si extraordinaires, si impressionnants de puissance divine d'Apocalypse chapitre 11. Si inébranlables, malgré la plus terrible opposition qu'ils puissent rencontrer, qui nous est également décrite en cette fin de la parole de Dieu. Et jusqu'au bout, Dieu attache la plus grande importance à cette fonction de témoignage et combien il nous faut donc le saisir et le mettre en œuvre. Amen. Et puis rappelons-nous aussi que ces colonnes sont juste à l'entrée du lieu saint et du lieu très saint. Car leur message est d'une importance cruciale en ce qui concerne la sanctification. Il est crucial pour manifester la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Elles sont là, ces colonnes, pour séparer ce qui est accepté de Dieu de ce qui ne l'est pas, ce qui lui est agréable de ce qu'il rejette. Oui, ces deux colonnes sont à l'entrée de ce chemin unique et salutaire. Ainsi décrit ailleurs, on l'appellera la voie sainte. Elle sera pour eux seuls. Nul impur n'y marchera. Et dans ce chemin béni, le pas du boiteux sera fortifié et redressé. Et puis une chose qui paraît bizarre aussi, qui peut paraître bizarre, c'est que, en fait, les feuillages et les fruits sont finalement dans la partie plutôt basse de la colonne, alors que sur un arbre, c'est habituellement l'inverse. Mais quelque part, nous avons affaire à un arbre inversé. Les racines de l'arbre terrestre sont dans le sous-sol. C'est là qu'elles puisent les minéraux et l'eau dont l'arbre va avoir besoin pour produire des fruits et des feuilles qui vont être en haut de l'arbre. Mais là, notre arbre a ses racines dans le ciel, en fait. Ses ressources sont célestes. Sa force, sa vie viennent d'en haut. Et les fruits sont destinés à être produits ici-bas, en bas sur cette terre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela doit être manifesté dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, dans le monde, vis-à-vis de notre prochain. Enfin, en douzième, rappelons que ces deux colonnes étaient en proximité directe de l'autel des sacrifices. Pour arriver à ces colonnes, il fallait passer par l'autel des sacrifices. Et cet autel était continuellement présent et en vue de ces deux colonnes. Ah, ceci nous parle du sacrifice de Christ, de l'autel de la croix de Christ, de l'œuvre accomplie sur le bois qui est la condition pour que toute la bénédiction de ces deux colonnes puisse être pleinement nôtre et que nous en soyons totalement bénéficiaires. Nous en avons besoin de cette œuvre de la croix à la conversion. Et nous ne devons jamais perdre de vue cette œuvre puissante et bénie. Il faut que la croix de Christ soit toujours à l'œuvre dans nos vies. Béni soit le Seigneur qui veut accomplir ces choses magnifiques et admirables dont il nous donne ici une démonstration si précieuse et si significative. Quelles occasions de lui rendre grâce. Quelle garantie de pouvoir accomplir toute son œuvre. Il est lui-même une réserve inépuisable et nous pouvons venir à lui pour être renouvelés et fortifiés en tous nos besoins. Alors, eh bien, le Seigneur nous appelle ainsi à la communion avec lui, que nous puissions la garder et la maintenir dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Il nous appelle à porter du fruit pour sa gloire, un fruit de bénédiction, un fruit de salut, et il nous appelle à le glorifier et à lui faire pleinement confiance, à demeurer ferme et à chercher en lui la force. Et c'est de cette manière que nous serons jour après jour et moment après moment, fortifié et affermi, béni soit son nom. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons encore de tout cœur pour cette grande grâce et cette grande fidélité, pour cette parole, Seigneur. Nous te remercions pour ces éléments que tu as mis en évidence dans ta parole pour que nous puissions aussi nous saisir de leur sens spirituel et que nous puissions appliquer cela à nos vies. Et nous te remercions pour l'œuvre de foi que tu poursuis encore en chacune et en chacun et l'encouragement à la prière persévérante. Sois glorifié. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, simplement Dans les annonces, je me permets de vous rappeler la prédication du vendredi soir sur notre site, pour, dans un but d'évangélisation et d'édification, ainsi que la prédication du culte du dimanche matin, et puis aussi le partage des sujets de louange et d'adoration sur le WhatsApp de l'Église, le dimanche matin, dès 9h45, et le partage des sujets de prière et d'action de grâce sur le WhatsApp de l'Église aussi, le mercredi soir à 20h15. Alors, il est bon, je pense, de tirer quelques leçons du confinement précédent. Vendredi dernier, à la radio, j'ai entendu un psychologue qui donnait quelques conseils très simples, mais utiles, pratiques, pour bien gérer le confinement, surtout en solitaire. Mais je pense que tout le monde peut en tirer quelque chose. Et il donnait 4 petits conseils. Le premier, c'est de structurer sa journée, si besoin est, donc, de se fixer un emploi du temps qui soit raisonnable et de s'y soumettre. En deuxième, il conseillait de ne pas laisser les temps de travail empiéter sur les temps de détente et inversement. En troisième, il recommandait de ne pas perdre le contact avec ses proches, donc téléphoner régulièrement aux proches et puis peut-être aussi à la famille plus éloignée et à la connaissance un peu plus éloignée. Et puis aussi de sortir tous les jours pour prendre l'air, pour faire autant que possible un petit peu d'exercice. Voilà. Alors prions aussi les uns pour les autres, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt.